Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 6 mai 2024. Lors de la publication du PIB américain, il y a 10 jours de cela, le monde merveilleux de la finance s'était vu obligé de se replonger dans les livres d'économie pour potasser la définition d'un mot que l'on pensait enterré à jamais. La définition était la suivante: une période de croissance molle avec une inflation forte s'appelle une stagflation. Et nous avions alors replongé dans une sorte de spirale angoissante et nous avons eu droit à notre salut grâce aux 6 Magnificent 7 qui ont réussi à publier des chiffres trimestriels globalement bons. Et puis vendredi dernier, il y a eu les chiffres de l'emploi américain qui nous ont sauvé la mise en étant ni trop fort et ni trop faible. La semaine dernière aura donc été passionnante. Entre les chiffres d'Apple, ceux d'Amazon, le FOMC meeting et les chiffres de l'emploi, on ne pouvait pas demander mieux. Autant on pouvait espérer beaucoup de la part d'Apple ou d'Amazon, ça n'est pas franchement les chiffres de l'emploi sur qui j'aurais parié en début de semaine si l'on m'avait demandé qui serait décisif à la fin de la semaine. Je n'aurais pas mis 10 balles dessus parce qu'on sait parfaitement que depuis des mois, les attentes sont systématiquement à côté de la plaque et que le mois prochain, les données seraient corrigées pour reprendre rendant ipso facto les chiffres qui devaient sortir vendredi dernier obsolètes et sans intérêt. C'est en tous les cas ce que j'avais pensé parce que je croyais que nous, investisseurs avisés, nous aurions déjà compris que ces chiffres étaient bidons depuis des mois et que ça ne faisait plus aucun sens de compter sur eux pour prendre des décisions d'investissement. Mais visiblement, c'est comme la blague des deux hommes qui vont voir un film de guerre au cinéma et à un moment du film, l'un des deux gars chuchote à son ami « Je te parie 100 francs que le gars de droite va partir en courant dans le champ devant lui et qu'il va sauter sur une mine et mourir. » Son ami le regarde, lui tend la main et accepte le pari. Quelques secondes plus tard, le soldat court à travers le champ, saute sur une mine et meurt. Le type sort 100 francs de son portefeuille et tend à son ami, lequel lui repousse la main en disant « Non, mais c'est pas juste, j'avais déjà vu le film et je vais pas te prendre ton argent. » Et l'autre lui répond « Mais moi aussi, j'avais déjà vu le film, mais je pensais pas que le mec serait aussi con pour sauter deux fois sur la même mine. » Eh bien, les chiffres de l'emploi, c'est pareil. J'aurais pas pensé qu'on serait suffisamment idiot pour y croire encore, mais force est de constater que c'est le cas. Vendredi, nous attendions 240 000 créations d'emplois et c'est sorti à 175 000. Alors vous me direz que c'est que 65 000 emplois créés de moins dans un pays de 380 millions d'habitants, c'est pas non plus la fin du monde et la récession qui s'annonce, mais le marché a adoré parce que Powell a dit que si le ralentissement de l'emploi était trop fort, la Fed n'hésiterait pas à baisser les taux. Là encore, je ne suis pas certain que 65 000 emplois de moins vont pousser Powell à baisser les taux en juin, mais peu importe, nous sommes tellement obsédés par cette thématique et on l'a tellement mauvaise de ne pas avoir eu de baisse des taux comme prévu, que l'on se raccroche à tout et n'importe quoi. Donc, on était content parce que l'emploi était faible et que la Fed va donc, je cite, pouvoir envisager de bientôt baisser les taux. Je résume donc, il y a une semaine, on commençait tout juste à admettre que la baisse des taux, on allait pouvoir se l'accrocher derrière les oreilles. Et là, sur le coup d'un chiffre, l'espoir renaissait à la vitesse de la lumière au carré. Et puis, ça n'est pas tout. Hein. Souvenez-vous, après les chiffres du PIB, on s'était dit que potentiellement, nous pourrions nous trouver à l'aube d'une stagflation et que la croissance molle couplée à l'inflation forte, ça n'était jamais terrible. Sauf que là, avec seulement 175 000 créations d'emplois, on était content parce que le chiffre faible est égal emploi faible, donc inflation faible. Donc la Fed pouvait baisser les taux, mais chiffre pas trop faible veut aussi dire que la croissance est encore pas trop mal, donc pas de stagflation. Alors, ne cherchez pas plus loin, on vit une époque formidable parce que tenez-vous bien, il paraît qu'il y a un chiffre à la baisse à ne pas franchir, celui des 125 000. Et si les NFP avaient été en dessous des 125 000, là on aurait commencé à parler de stagflation et on serait retourné chercher Paul Volcker, seul président de la Fed, à avoir vaincu la stagflation. En résumé, 50 000 emplois nous séparent de la stagflation et du bonheur absolu de voir les marchés retourner au plus haut de tous les temps. Imaginez, le mois prochain, on corrige les chiffres à la baisse et on nous dit qu'en fait, c'était 125 000 et pas 175 000. Eh ben non, ne cherchez pas, il ne se passera rien parce que ça fait un mois et qu'on sera passé à autre chose. Vous l'aurez compris, en se basant sur un chiffre économique qui est souvent faux et souvent recorrigé dans un sens ou dans l'autre le mois suivant et le mois d'après, le marché s'est soudainement senti pousser des ailes. On a oublié l'inflation, oublié la stagflation et on s'est emparé du bull market qui nous a ramené là où nous étions quand Nvidia prenait 12% par jour. Tout le monde s'est dit que finalement, ils vont peut-être les baisser les taux parce que l'économie montre des signes de faiblesse, mais pas trop, et qu'elle montre aussi des signes de force, mais pas trop. En gros, si l'économie était un parti politique, ça serait le centre. Le genre de parti qui servent à rien parce qu'ils sont consensuels et qui ne prennent jamais de risques. Un peu comme François Bayrou. Mais peu importe, les intervenants étaient contents et il ne restait plus qu'à savoir quel jour nous allions atteindre les plus hauts de tous les temps. Et les chiffres de l'emploi ont donc réussi à eux tout seuls, à être capables de rendre la motivation aux indices, et puis depuis vendredi à 14h30. Et on s'est dit que finalement, peut-être bien que les taux vont baisser à la fin. La semaine qui nous attend sera donc une semaine de digestion. On va écouter les membres de la Fed qui vont parler. On va regarder les autres chiffres du trimestre qui vont sortir. Et puis on se regardera en se disant « c'est quand même beau un bull market à la fin du mois d'octobre ». Il reste donc à préciser une chose. Rien n'a changé. L'économie n'est pas meilleure ou moins bonne. L'emploi n'a pas drastiquement changé et que la Fed monte ou baisse les taux de 0,25% ne va pas changer la face du monde. Actuellement, nous sommes en train d'interpréter chiffre après chiffre pour essayer d'en tirer des conclusions définitives. Et pourtant, aucun de ces chiffres n'a le pouvoir de changer quoi que ce soit dans l'économie actuelle, surtout s'ils ne sont pas correctement calculés. Mais le marché n'en a cure. Il reste persuadé, au fond de lui, qu'il suffit de 50 000 emplois de plus ou de moins pour que l'on puisse passer de la stagflation au bull market. Et que si Powell nous dit qu'il ne montera probablement pas les taux, c'est qu'il ne les montrera plus jamais. Tout reste une question de sémantique et d'à partir de quand nous avons envie de réfléchir rationnellement. Une chose est certaine, ça n'est pas cette semaine. En ce début de semaine, l'Asie ne fait strictement rien, le Japon est fermé, et la Chine vient de sortir un de ses PMI en ligne avec les attentes. On attend de voir comment Wall Street va se comporter quand aucun des Magnificent Seven ne publie des chiffres trimestriels et quand il n'y a pas un chiffre économique important qui est prévu à la publication. Le pétrole est toujours dans la zone des 78$, mais il semble enfin décidé à remonter un poil parce que les pourparlers entre Israël et le Hamas semblent de retour à la case départ. Quelle grosse surprise, mais tant que les Iraniens ne reviennent pas dans le jeu, eh bien le baril semble voué à s'effriter lentement sans grand intérêt. L'or est à 2315 et le bitcoin est de retour à 65 000. Dans les petites nouvelles de ce lundi matin absolument merdique et pluvieux, il faudra noter que Berkshire Hathaway possède dorénavant 189 milliards de dollars de cash. Le monstre de Warren Buffett continuant à se débarrasser de ses actions, notamment d'Apple, l'une de ses plus grosses positions. Ce chiffre et cette situation soulignent les difficultés rencontrées par le mythe Warren Buffett et son équipe à trouver des investissements intéressants. Sous-entendu, pas complètement délirant en termes de valorisation. Autrement, l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway était très émotionnelle avec l'absence de Charlie Munger et le fait que Warren Buffett ait déclaré « Je ne sais pas si je serai là l'an prochain ». Pour le reste des nouvelles, ce matin c'est Waterloo Morne-Plaine et quand je regarde dehors c'est pire que Morne-Plaine. Le président chinois est en France pour faire ami-ami avec Macron et ses amis, il va manger du fromage français et régler le problème de la guerre en Ukraine. Autrement pour le reste, tout le monde est en train d'essayer de trouver le moyen de prendre le plus de vacances possible en posant le moins de jours de congé. Cette semaine sera tronquée par l'ascension et en ce qui me concerne, je ne vais travailler qu'un jour sur deux et les futurs sont donc en hausse de 0,13% et il n'y aura pas de chiffres économiques aujourd'hui. Et pour ce qui est des chiffres trimestriels, nous aurons des noms comme Palantir, Lucid, Spirit Airlines ou encore BioNTech. Passez une excellente journée dans un monde où le verre est à moitié plein et on se reparle mercredi matin à la même heure et au même endroit. Excellent début de semaine.